En conclusion, en 2021, au moment où on lance les campagnes de vaccination contre le Covid, on a derrière nous plus de 20 ans de recherche sur l'ARN messager et 70 essais cliniques concernant les vaccins ARN messager enregistrés sur le site très officiel de clinicaltrial.gov, qui est le site de la National Institute of Health des États-Unis. Or, sur ces 70 essais, 17 se sont penchés sur différentes maladies, sans qu'aucun n'ait dépassé la phase 2. Puis le Covid est arrivé, et ce sont 53 essais d'un coup qui tentent de l'éradiquer. Et là, chez Pfizer et chez Moderna, on passe de la phase 1 à 2, puis à 3 en un claquement de doigts. Pourquoi ? Parce que les États ont assoupli les réglementations afin que les laboratoires puissent faire leurs essais en mode accéléré. Le fameux Fast Track. On nous a répété que les vaccins ARN messager étaient connus et utilisés depuis longtemps. Or, c'est un mensonge. Albert Bourla, directeur général de Pfizer, accorde le 10 mars 2022 une interview au Washington Post dans laquelle il déclare « Deux points, ouvrons les guillemets. La technologie à ARN messager n'a jamais délivré le moindre produit jusqu'à ce jour, ni un vaccin, ni aucun autre médicament. » Et en parlant des scientifiques de son groupe, il ajoute « J'ai été surpris quand ils m'ont suggéré que c'était la façon de poursuivre. » Il conclut, « J'ai suivi mon instinct qui me disait qu'il savait ce qu'il disait. » Instinct de businessman ? Sans doute. Mais au fait, quel est le principe de ces vaccins ARN messager anti-Covid ? Jusqu'à présent, se faire vacciner, c'était se faire injecter un virus atténué ou un bout de protéine de virus inactivé. C'est-à-dire que le virus ou le bout de virus était rendu inoffensif. Notre système immunitaire reconnaissait ces corps étrangers et fabriquait immédiatement des anticorps contre eux. On s'immunisait contre les maladies. À partir de septembre 2021, le CDC, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis, change la définition du mot « vaccin ». Je mets « vaccin » entre guillemets. On ne parle plus d'immunité, mais de protection, sans en connaître l'étendue. C'est une première différence avec la vaccination classique. Dans le cas d'un vaccin ARN messager, on nous injecte une soucoupe dans laquelle on met de l'ARN messager. Le tout est synthétique. Cette technologie de soucoupe est d'ailleurs la même que celle utilisée avec les vaccins ARN messager contre la grippe aviaire et contre la rage, ceux qui ne marchaient pas. Cette soucoupe échappe donc à la surveillance immunitaire de votre corps qui est chargé de faire les anticorps. Ainsi, contrairement à ce qui se passe pour toute autre vaccination, notre système immunitaire ne réagit pas en fabriquant des anticorps sur le champ, car il ne détecte pas de virus. En tout cas, pas à ce stade. Il s'agit de ces fameux 15 jours où l'on vous a indiqué que vous n'étiez pas protégé. Je cite ce que dit le CDC. Il faut du temps à votre corps pour se protéger. Les gens sont considérés comme complètement vaccinés 2 semaines après leur première injection. Ce délai est donc une seconde différence fondamentale. La soucoupe fusionne alors avec nos cellules. Comprenez que l'ARN messager entre en elles. Là, les cellules se transforment d'un coup en usine à produire ce que l'ARN messager vaccinal nous force à produire. Avec cette injection, un nouvel ordre arrive. Nos cellules sont ainsi reprogrammées, car l'information de cet ARN messager synthétique est conçue pour s'imposer, être exécutée avec une forte productivité. CureVac, le laboratoire allemand, parlera d'une clé USB qui donne les ordres à vos cellules. Je cite, « Vous pouvez simplement brancher la clé USB dans le corps. Elle lit les informations, fabrique toutes les protéines que vous voulez », nous explique le cofondateur de CureVac en parlant de l'ARN messager. C'est en tout cas ce forçage au sein même de nos cellules et donc de nos organes qui est la troisième différence fondamentale avec une vaccination classique. Dans le cas du vaccin COVID-19, l'ordre est donné de fabriquer une protéine de SARS-CoV-2. Elle s'appelle Spike. Mais cette protéine du virus n'a pas été inactivée. Elle n'est donc pas rendue inoffensive. Quatrième différence donc. C'est encore une fois totalement inédit dans toute l'histoire des vaccins. Contrairement aux vaccins classiques, on n'essaie pas de nous faire produire une spike qui soit moins toxique ou incapable de se lier à nos cellules. On attend à ce que notre organisme produise des anticorps contre la protéine en ignorant toutes les autres conséquences que cette protéine de virus qui est active peut avoir sur notre organisme. Cinquième différence, et pas des moindres. Notre corps se retrouve dans une situation particulièrement inconfortable. En effet, qu'est-ce qui empêche nos systèmes de défense immunitaire d'attaquer nos propres cellules qui produisent cette spike étrangère? Rien. Ce sont donc nos cellules qui produisent la protéine de virus et c'est notre propre défense immunitaire qui va attaquer les cellules qui la génèrent. En clair, il n'est pas exclu que ce type de vaccination débouche sur une autodestruction partielle de notre corps et ouvre la porte à de possibles maladies auto-immunes. Une crainte de réponse auto-immune qui semble déjà justifiée avec l'observation de patients souffrant du cœur après la vaccination. En analysant la paroi musculaire de leur cœur, le myocarde, les scientifiques ont retrouvé chez les individus vaccinés la protéine Spike ainsi que des cellules immunitaires inflammatoires. La présence de ces cellules au niveau de Spike évoque, hélas, la signature d'une réponse auto-immune. Mais nous avons encore un autre problème. Avoir choisi Spike n'était pas une bonne idée. Comme vous le savez, les virus mutent tout le temps. En juillet 2020, on avait déjà recensé plus de 15 000 variants du SARS-CoV-2. Des variants qui compromettent la spécificité des tests PCR, comme celle des anticorps. Autrement dit, le vaccin nous fait produire des anticorps qui sont périmés face aux nouveaux variants. C'est ce qui est arrivé avec alpha, bêta, gamma, delta, omicron and family, si je puis m'exprimer ainsi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le patron de Moderna. Le 11 août 2022, auprès de CNN Business, il déclare « Alors que le COVID-19 continue de muter, Moderna devra continuer à mettre à jour les vaccins. » Et afin de bien se faire comprendre de nous tous, il ajoute « Beaucoup d'entre nous achètent un nouvel iPhone chaque mois de septembre, où vous obtenez de nouvelles applications et des applications actualisées. » L'autre problème est que Spike a une particularité inquiétante. Elle peut déclencher les mêmes réactions que le SARS-CoV-2. Spike a donc la capacité de se retourner éventuellement contre nous. Et c'est ce que mon collègue Gregory Polland, qui dirige le groupe de recherche sur les vaccins de la Mayo Clinic à Rochester aux États-Unis, explique dans la revue Nature en août 2022. Ouvrons les guillemets. Je suppose que Spike et le virus se révéleront avoir une liste assez impressionnante de physiopathologies, c'est-à-dire de maladies. Mais que savons-nous de cette liste ? Nous avons aussi appris qu'avant de disparaître, Spike peut avoir le temps de circuler en se liant à certains organes, dont le cerveau, ce qui est totalement inédit et inquiétant. Fin 2020, une étude parue dans la revue Nature Neurosciences montre que si l'on injecte Spike dans les veines ou dans le nez d'une souris, Spike circule, passe la barrière protectrice de son cerveau et là, s'accumule en se collant à la surface des petits vaisseaux. Dans une autre étude, cette fois chez l'homme, on retrouve Spike qui provoque une inflammation typique des maladies cardiovasculaires au niveau des vaisseaux sanguins et entraîne en plus la formation de caillots. Toujours chez l'homme, on apprend dans une autre étude que Spike est capable de réactiver des séquences de virus dans nos globules blancs. Or, on sait que ce genre de réveil peut déclencher cancer, sclérose en plaques, maladies neurologiques comme la schizophrénie ou polyarthrite rhumatismale et diabète de type 1. Mais Spike ne fait pas que circuler ou atteindre certains organes. Non, elle est aussi experte en formation d'agrégats, surtout quand elle se dégrade, par exemple, quand il y a de l'inflammation. L'alerte avait été lancée en 2021 par une publication qui montre que si l'on mélange de la spike avec du plasma d'individus sains, alors on verra des petits caillots se former. Plus tard, une équipe de chimistes suédois précise que spike peut former des agrégats, c'est-à-dire des compilements de type amyloïde, c'est-à-dire les dépôts qui sont responsables de certaines démences, notamment comme dans la maladie d'Alzheimer. Face à tous ces problèmes, les chercheurs ont voulu voir à quel point Spike était toxique. Ils l'ont donc injecté dans un petit poisson qu'on appelle le poisson zèbre. Résultat, le foie, les reins, les ovaires et le cerveau ont été abîmés jusqu'à tuer la pauvre bête. Dans l'étude dont nous parlons, parue en 2022 dans la revue Science of the Total Environment, les scientifiques parlent d'homologie génétique conservée entre le poisson zèbre et l'homme, ce qui signifie que ce qui est arrivé au petit Nemo pourrait bien aussi nous arriver. Les liens entre Spike et les éventuels effets secondaires des vaccins, qu'ils soient cancer, accident cardiovasculaire ou maladie neurologique, préoccupent désormais de nombreux scientifiques. Comme le dirait mon collègue Per Hammarström, expert chimiste en protéines de l'Université de Linköping en Suède, toujours dans la revue Nature en août 2022, il dit « Soulever des problèmes de sécurité concernant les vaccins peut être inconfortable. Nous ne voulons pas être trop alarmistes, mais en même temps, s'il s'agit d'un problème médical, nous devons y remédier. » Mais quittons Spike pour nous demander si, en plus de s'être trompé de protéines, on ne se serait pas aussi trompé sur la stratégie contre le Covid. Pour lutter et de préférence gagner contre le SARS-CoV-2, les chercheurs ont commencé par choisir la souche de Wuhan. Or, en juillet 2020, on sait déjà qu'une autre souche a fait son apparition et que celle-ci toucherait 74% de la population mondiale selon une étude italienne parue dans la revue Frontiers in Microbiology. Bref, nous voici lancés dans une guerre contre un ennemi qui n'est pas le bon. À l'école, on aurait qualifié ça de hors-sujet. Cette stratégie était d'autant plus un non-sens que vacciner contre un coronavirus n'est pas la bonne idée. Comme des scientifiques l'avaient souligné très tôt, dès le 4 décembre 2020, dans le International Journal of Clinical Practice, ils indiquaient « Sur la base de la littérature publiée, il aurait dû être évident pour tout médecin qualifié en 2019 qu'il existe un risque important pour les sujets vaccinés qu'ils puissent souffrir d'une maladie grave une fois vaccinés, alors qu'ils n'auraient peut-être souffert que d'une maladie bénigne et spontanément résolutive s'ils étaient non vaccinés. Fermez les guillemets. Les risques découverts par les essais de vaccination anti-coronavirus portaient sur le fait que les anticorps facilitent la maladie au lieu de la neutraliser. Sur la base de ce risque, les chercheurs insistaient sur la nécessité d'informer spécifiquement les futurs vaccinés. Ouvrons les guillemets. Le consentement doit également clairement distinguer le risque spécifique d'aggravation de la maladie Covid-19. Fermons les guillemets. Les vétérinaires se souviennent de certains de ces essais ratés et de la mort des animaux qu'ils ont vaccinés. Et pourtant, quand le Covid a débarqué, on a aussitôt décidé de retenter le coup, mais cette fois-ci sur l'humanité. Dans le même esprit, on nous a dit que l'ARN messager qu'on nous injectait ne bougerait pas de notre bras et disparaîtrait rapidement de notre organisme. Vous l'avez forcément entendu, puisqu'on nous l'a tambouriné en nous vendant le vaccin. Mais est-ce vrai? Non. Quelle est la durée de vie de l'ARN messager dans les flacons? Réponse: on ne sait pas. Premièrement, parce que les conditions de transport des vaccins ont changé à plusieurs reprises. Prenons la haute autorité américaine, la FDA, celle de sécurité des médicaments. En 2021, au moment où le vaccin à ARN messager Pfizer contre le Covid arrive sur le marché, elle indique un transport possible entre 2 et 8 degrés s'il dure moins de 12 heures. 5 jours plus tard, il s'agit de privilégier un transport entre moins 90 degrés et moins 60 degrés. Aujourd'hui, on nous indique que le vaccin doit être transporté entre moins 90 degrés et 0 degrés. On peut difficilement trouver plus grande amplitude en termes de température. Deuxièmement, parce que les conditions de stockage des vaccins ont changé à plusieurs reprises. Côté CDC, on lit que les vaccins se conservent 10 semaines entre 2 et 8 degrés, mais l'OMS indique qu'ils se conservent 5 jours. Alors, à qui se fier? De plus, nous disent les laboratoires, les vaccins ne doivent pas être exposés à la lumière. On peut alors se demander pourquoi tous ces vaccins ARN messagers sont contenus dans des fioles transparentes. Troisièmement, parce que les dates de péremption des vaccins ont changé à plusieurs reprises. Là encore, c'est un peu le chaos, puisque ça bouge environ tous les 3 mois. Prenons le vaccin Pfizer, par exemple. Sur le site de l'OMS, on peut lire que le vaccin peut être conservé pendant 2 heures quand il est décongelé. Or, le site du CDC indique que le vaccin peut être conservé pendant 12 heures après décongélation. Qui croire ? Quatrièmement, et enfin, parce qu'on apprend que les produits de Moderna et de Pfizer sont tous déjà dégradés dans les conditions optimales de transport et de stockage. Certes, moins de 5% seulement de l'ARN messager est altéré, dit une publication. Mais le problème, c'est que 5% d'ARN messager dégradé, c'est un peu comme un steak dont 5% de la viande serait avariée. Et comme si cela ne suffisait pas, le British Journal of Medicine nous alerte en 2021 sur une perte bien plus importante d'intégrité de l'ARN. Le vaccin Pfizer-BioNTech serait dégradé à 55%, plus de la moitié. Juste pour info, sachez que TrialSite News, qui est un site d'information qui référence les essais cliniques, précise que les principaux organismes de réglementation comme la FDA, cette autorité américaine de sécurité des médicaments, ou l'EMA, l'Agence européenne des médicaments, ou Santé Canada, et la MHRA, autorité britannique de sécurité des médicaments, étaient tous au courant de ce problème. Quelle est la durée de vie de l'ARN messager dans notre corps? Réponse: on ne sait pas. Un peu d'histoire. En 1997, ont lieu de premières études autour de l'ARN messager qu'on cherche à mieux comprendre. Sont alors utilisées des cellules auxquelles on prélève l'ARN messager qu'elles produisent naturellement et dont on mesure la durée de vie, ou plus exactement, ce que nous appelons la demi-vie. Pourquoi demi-vie ? Parce qu'on ne peut pas déterminer sa durée de vie, donc on parle de demi-vie. Résultat, sa demi-vie est de 3 heures. Ça ne signifie pas que la durée de vie totale soit de 6 heures, mais qu'il faut 3 heures pour que la moitié de l'ARN messager ait disparu. 2 ans plus tard, on étudie toujours l'ARN messager, mais cette fois-ci, on en fait une synthèse artificielle et on l'ajoute à des cellules humaines. Nouvelle mesure, entre 10 et 15 heures. Pourquoi une telle différence entre les deux études ? Selon le chercheur, c'est justement parce qu'il s'agit d'un ARN messager artificiel. C'est visiblement sur la base de ce résultat que les scientifiques affirment depuis 2 ans que l'ARN messager se dégrade rapidement en 1 ou 2 jours. Sauf que l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2012, on tente un changement du code génétique de l'ARN. J'entre un peu dans le détail. C'est celui qui attribue le prix Nobel de 2023 à Carrico et Weissman. L'ARN est fait à partir de 4 lettres. A, U, G, C. Or, parmi les nombreuses régulations de l'ARN, la lettre psi est parfois utilisée au lieu du U. Un peu comme on mettrait un peu de piment dans un plat pour en rehausser le goût. Là, les chercheurs vont injecter un ARN messager dans lequel ils ont changé quelques U en psi. Cette fois, l'ARN messager reste dans le corps de la souris 4 jours contre 6 heures sans ce changement. En 2020, le Covid arrive. On fait une toute nouvelle étude. Cette fois, on remplace systématiquement tous les U par des psi. En clair, on crée un code génétique totalement inédit. Un code qu'on n'a rencontré nulle part, ni chez un être humain, ni chez un animal, ni dans un végétal ou un microbe. Et on l'injecte à l'échelle du monde entier. Quelle est la durée de vie de ce nouvel ARN messager ? On ne sait pas. Mais on sait qu'il sera moins dégradé et qu'avec du psi, la productivité de l'ARN messager va être augmentée au détriment d'ailleurs de sa qualité. Or, pour un vaccin ARN messager, fabriquer davantage de protéines, mais de moins bonne qualité, revient à fabriquer des anticorps moins spécifiques, ce qui est problématique. Tout comme ce que l'on a appris en mars 2022, à savoir que la durée de vie de l'ARN messager dépasse largement les 4 jours. Détail glaçant, ce dernier fait n'a été découvert que par hasard. Les chercheurs en question, qui travaillaient sur l'immunité post-Covid et post-vaccinale, s'aperçoivent tout à coup que l'ARN messager est encore présent dans le corps 2 mois après l'injection du vaccin anti-Covid. Rassurant, non ? Et le trajet du vaccin ARN messager, quel est-il ? Autre info qu'on nous a répétée en boucle. Injecté dans le muscle, il y reste. C'est faux. Pour avoir une idée de son trajet, il suffisait d'ailleurs de se pencher sur les études précliniques du vaccin ARN messager anti-H17N8 basé sur la même technologie. En fait, l'ARN messager avait été retrouvé dans absolument tous les organes étudiés, le muscle, qui correspond donc au site d'injection, et le plasma, qui indique une circulation dans le sang, mais aussi la moelle osseuse, le cœur, le foie, l'estomac, les reins, le poumon, le côlon, la rate, les ganglions lymphatiques et d'autres tissus encore, sans oublier le cerveau et les testicules. On pouvait donc se douter que l'ARN messager des vaccins anti-Covid ne resterait pas immobile. Pour le comprendre, il suffisait aussi de reprendre le trajet d'un ARN messager naturel et de le comparer à celui d'un ARN messager vaccinal. D'un côté, l'ARN messager naturel passe du coffre-fort, le noyau de la cellule, vers le cytoplasme, l'extérieur du noyau, en franchissant une première frontière hyper sécurisée et contrôlée. Il peut alors soit rester sagement dans la cellule, soit passer la deuxième frontière, empaqueter dans un exosome et circuler dans tout le corps. À chacune de ces étapes, l'ARN messager naturel fait de très nombreuses rencontres et subit des modifications très diverses. De l'autre côté, le vaccin qui contient l'ARN messager artificiel nous est injecté après avoir été mis dans des petites soucoupes. Celles-ci sont faites de nanoparticules lipidiques, ce qu'on appelle les NPL, nanoparticules lipidiques. Les NPL sont comme un suppositoire gras qui permet à l'ARN messager de pénétrer la membrane des cellules tout en augmentant leur temps de circulation dans le corps. Ça signifie qu'elles restent plus longtemps dans le corps et qu'en toute logique, on va possiblement retrouver l'ARN messager dans tous les types de cellules. Et cela pose un premier problème, parce que certains des lipides chez Moderna comme chez Pfizer sont listés comme étant hautement toxiques dans les listes réglementaires de produits de sûreté chimique, qu'on appelle MSDS, qui sont des fiches de données de sécurité. Mais qu'on ne s'inquiète pas, il nous a été dit, par courrier personnel de l'Agence du médicament européen, que ce n'était pas grave parce qu'ils étaient en faible quantité et qu'on ne recevrait que 2 doses de vaccin. 2 doses qui se sont déjà multipliées par 2. De mon côté, j'ai donc essayé de me convaincre de cette prétendue absence de toxicité. Pas facile, avec cette étude datant du 19 novembre 2021, réalisée sur des souris auxquelles on a injecté de l'ARN messager artificiel sous enveloppe NPL. Un résultat ? 80% d'entre elles sont mortes dans les 24 heures, avec une injection de 10 microgrammes. On a ensuite injecté la moitié de cela, soit 5 microgrammes, et là, 20% de souris mortes. Et encore moitié moins, et toutes les souris ont survécu, mais on a compris que le côté toxique ne peut pas disparaître du corps. Et que ces millions de nanoparticules lipidiques fragilisent fortement nos cellules. Et chez l'homme, les allergies à une modification de ces NPL constituent l'une des 3 contre-indications à la vaccination. Pourtant, Pfizer ne rapportera ni réaction allergique, ni anaphylaxie sur les 22 000 vaccinés de son étude de 2020. Tandis qu'une étude publiée dans la revue scientifique JAMA en 2021, avec un nombre de vaccinés Pfizer équivalent, rapporte 2% de réactions allergiques et environ 1 pour 4 000 anaphylaxies, c'est-à-dire cette réaction allergique qui engage le pronostic vital. Étonnant, non, ces résultats de Pfizer? Par ailleurs, certains de ces lipides toxiques s'accumulent dans le foie pour 15 à 20% de la dose. Et ce que nous ignorons, c'est quand et sous quelle forme dégradée ils en sortiront. On nous injecte le vaccin ARN messager dans le muscle et d'après les données de Pfizer, on le retrouve dans le sang en moins de 15 minutes. Et les soucoupes ARN messager se propagent donc dans tout l'organisme sans que l'on sache quand elles seront détruites. Elles atteignent notre foie, qui gère notre métabolisme, mais aussi notre rate, qui gère notre immunité, nos glandes surrénales, qui fabriquent nos hormones, nos ovaires, qui nous permettent d'avoir des enfants, et notre moelle osseuse, qui gère la production de nos cellules sanguines. La liste ne s'arrête pas là. Les soucoupes atteignent aussi les poumons, les reins, la vessie, les yeux, le cœur et le cerveau. En résumé, poursuivre les injections pourrait amener tout notre corps à un niveau constant d'inflammation chronique et à un épuisement immunitaire, comme l'indique l'étude réalisée sur les souris et dans laquelle il est indiqué, ouvrons les guillemets, les nanoparticules lipidiques utilisées pour les études précliniques sont hautement inflammatoires. En clair, que ce soit chez le rat, la souris ou chez l'homme, l'ARN messager atteint des organes de la plus haute importance. Or, on a découvert cela en février 2021, soit en pleine campagne de vaccination. Et c'est Pfizer qui en donne la preuve dans les tableaux qu'il fournit dans un document confidentiel publié par le gouvernement japonais et un rapport donné par l'Agence européenne des médicaments. Documenter le cheminement d'un produit après l'avoir inoculé, cela n'avait jamais été fait auparavant. Et est-ce que les ARN messagers sortent de notre corps? Certains des ARN messagers naturels, ce que notre corps produit, sortent à travers les larmes, la sueur, la salive en cas de baiser appuyé, l'urine et le lait maternel entre autres. Pourquoi pas tous? On l'ignore. Mais ce n'est de toute façon pas dangereux. En revanche, pour ce qui est des ARN messagers artificiels, ceux injectés dans le vaccin, ils peuvent se retrouver là où ils ne devraient pas être. L'Institut national de la santé américaine, le NIH, agence de recherche mondialement connue et reconnue, qui a évidemment reçu toutes les études sur le sujet, a décidé de n'en relayer que deux, sans doute parce que ce qu'elle révèle a de quoi faire peur. Que disent-elles? Que l'ARN messager passe dans le lait maternel. Je cite, 36 des 40 échantillons de lait maternel dans une étude et 5 des 309 échantillons dans l'autre avaient des niveaux d'ARN messager détectables, selon l'une des deux études. Ces résultats vont dans le même sens que d'autres publications depuis, comme celle dans le JAMA Pediatrics le 26 septembre 2022, mais aussi dans Frontiers in Immunology le 11 janvier 2023. Ne reste plus à espérer que cela n'aura pas de conséquences graves. En attendant, impossible d'évacuer la question. En effet, des observations inquiétantes ont été faites sur des mères allaitantes et leurs enfants. L'information émane de Pfizer même. Mais, pour la petite histoire, le laboratoire n'était pas partant pour diffuser la dite information et s'est bien gardé de partager quelques 450 000 pages consacrées à son produit, qui aurait pourtant pu être bien utile avant de procéder à des milliards d'injections dans le monde. Qu'on se rassure cependant, le laboratoire avait prévu de nous les donner dans environ 75 ans et 4 mois, dit cite l'agence de presse Reuters en janvier 2022. C'était compté sans un juge américain qui a trouvé que 75 ans et 4 mois, c'était un peu longuet, et a ordonné à la FDA de les publier sur le champ. On ne remerciera jamais assez ce juge, car ce que les tableaux contenus dans ces documents décrivent est décapant. Certaines mères allaitantes ont subi une paralysie partielle, n'ont plus eu de lait ou l'ont vu décoloré. Pfizer ne précise pas de quelle couleur devient le lait, mais dans une autre étude publiée en septembre 2021, le laboratoire parle d'une couleur bleu-vert. On apprend de ce même rapport certains changements de comportement chez les enfants. Les plus courants étaient l'irritabilité, le manque de sommeil, une somnolence significativement plus élevée signalée chez les enfants dont les mères ont reçu le vaccin Pfizer. De plus en plus d'informations sur les dangers des vaccins ARN messagers pour les femmes enceintes font surface, notamment par la réactualisation en août 2022 d'un texte anglais. Selon cette circulaire officielle, la vaccination des femmes enceintes n'est pas recommandée, ni celle des femmes qui allaitent. Pourtant, c'est tellement logique, et a fortiori pour un médicament génétique qui se faufile et qu'on retrouve dans tous les organes où on le cherche. D'ailleurs, dès le début du processus de recherche, une attention toute particulière avait été portée par les laboratoires pour exclure des essais les hommes et les femmes à risque de procréer. Les femmes enceintes ou allaitantes devaient aussi être exclues des essais des vaccins selon le document de protocole clinique de Pfizer. Le 11e critère d'exclusion, page 42, stipule noir sur blanc « Femmes enceintes ou allaitante, en critère d'exclusion. Et si elle tombait enceinte pendant l'étude, elle ne pouvait plus recevoir d'injection selon les critères de règles d'arrêt pour chaque candidat vaccin BNT162B2, page 65 au paragraphe « Test de grossesse ». Alors comment se fait-il qu'en mars 2021, dans un document intitulé « Aperçu clinique », Pfizer nous apprend que 50 femmes enceintes faisaient partie de leur essai clinique numéroté C-459-1001. Je cite. « Au moment de la date limite des données, le 13 mars 2021, un total de 50 participantes qui avaient reçu du BNT-162B2 avaient signalé des grossesses. » Mystère. D'autant que nous ne pouvons consulter aucun suivi, ni de ces mères, ni de leur bébé. Comment se fait-il que nous n'ayons pas d'informations sur 50 participantes? Au moins 46 avaient reçu le vaccin. Y a-t-il eu des fausses couches? Y a-t-il eu des problèmes cardiaques, des malformations ou aucun problème? Des soucis à l'allaitement ou non? Ces bébés sont-ils plus ou moins vulnérables aux infections? Aucune information n'est disponible.